Radio Grenouille, 10 minutes avec la rédaction des 3-8. 10 minutes avec.
10 minutes avec Karine Espinera, chercheuse en sciences de l'information et de la communication, cofondatrice de l'Observatoire des transidentités. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez notamment travaillé sur la représentation des trans dans les médias, ce qui m'amène à faire la remarque suivante. Depuis quelques temps, on voit émerger de véritables icônes trans, Laverne Cox, Caitlyn Jenner aux États-Unis, Conchita Wurst en Europe. Mais ce sont toutes des femmes, aucun homme. Cette représentativité aurait donc ses limites ?
Absolument. Dans ma recherche, sur les premiers, en tout cas dans le contexte français, dont les premiers matériaux remontent à 1946, donc c'est quand même assez ancien, même si le sujet est véritablement médiatisé à partir des années, le début des années 50. Immédiatement, ce sont des femmes trans qui font la une des journaux, la une des reportages. Et sont essentiellement elles qui sont visibles. Alors il y a plusieurs raisons. En général, à l'époque déjà, dès les débuts, elles sont stars du cabaret, donc ce sont quand même des rôles très 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 spécifiques. Les hommes trans sont plus discrets et leur visibilité va être beaucoup plus tardive. Dans le contexte français, par exemple, début des années 80, et encore, j'avais noté dans mon corpus seulement 2 personnes, donc 83-87, c'était extrêmement peu sur plus de 50 ans de médiatisation. Cette disparité, elle a toujours existé. Elle existe toujours, même si elle s'est légèrement atténuée dans certains contextes. En ce moment, on assiste à cette vague, notamment avec Laverne Cox, et on l'a vu avec Caitlyn Jenner. Mais cette visibilité, on l'a peut-être oubliée aujourd'hui, mais elle a été plus forte dans la fin des années 2000, donc 2009-2010, notamment avec la parenté de Thomas Beatty, donc, qui est passé pour le premier homme enceint et qui a eu une médiatisation absolument sans commune mesure. Ça a été un phénomène absolument mondial sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler, mais il y a aussi d'autres figures masculines, Ruben Noé Coronado en Espagne, par exemple, ou Scott Thomas, l'Australien. Enfin, il y a eu un certain nombre de garçons trans. C'est l'effet zapping aussi de la médiation qui nous fait oublier ça. La disparité, elle existe, mais il y a aussi des périodes. Et on est en ce moment dans une période où ce sont des femmes trans venues des États-Unis, nous n'oublions pas, qui réussissent sur le plan médiatique. Donc, par exemple, prenons Laverne Cox pour Orange is the New Black. Elle vient directement d'une série à succès. Caitlyn Jenner a le passé qu'on connaît, mais a aussi la télé-réalité avec la famille Kardashian. Donc, ce sont des personnes qui sont déjà installées aussi dans l'univers médiatique et qui donc forcément ont déjà aussi les médias quasiment à disposition, qui a toujours été, et cette médiatisation a toujours été friande de femmes trans particulièrement, parce que le phénomène est plus spectaculaire.
Vous écrivez que les transsexuels aujourd'hui sont passés d'objet à sujet. Qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Dans les années 50-60, il y avait probablement plus d'articles, d'ouvrages, d'études sur les personnes trans, je vais le dire au sens large, qu'il n'y avait véritablement de personnes trans connues. C'est-à-dire que les personnes trans étaient, on va pour ainsi dire, rares, en tout cas celles qui étaient visibles étaient rares, et pourtant il y avait une prolifération, une profusion d'écrits et d'études sur les personnes trans qui ont capté l'attention très très rapidement. Et en général, les personnes trans étaient toujours décrites par des médecins, par des sexologues, par des urologues, puis ensuite des psychiatres, des psychanalystes. La seule parole finalement venue des personnes trans était des autobiographies jusqu'aux années quasiment 2000. Hein. Pour attendre des ouvrages écrits, on va dire des ouvrages en sens social par exemple, hein, autres que des autobiographies par des personnes trans, aux États-Unis il a fallu attendre la fin des années 90 et en France c'est seulement maintenant, depuis 2006-2008, que des ouvrages commencent à apparaître, et notamment avec notre plateforme, l'Observatoire des transidentités, où on a une politique de publication qui est très active. Cette idée est aussi d'avoir une parole qui vient du terrain. On ne peut pas toujours se faire décrire, entre guillemets, par quelqu'un d'autre venu d'ailleurs. C'est un petit peu comme la colonisation, finalement. Hein. C'est quand vous parlez d'un peuple, et que c'est le peuple colonisateur qui parle cette colonisation, on va forcément avoir un regard qui va être biaisé. Il faut que les gens, entre guillemets, les colonisés, puissent aussi s'exprimer. Et le parallèle peut paraître peut-être choquant comme ça, mais il est extrêmement pertinent.
Vous écrivez aussi qu'on cantonne souvent les questions trans aux opérations, aux changements de sexe, et qu'on ne parle pas assez de changement de genre. Qu'est-ce que ça veut dire ?
on cantonne souvent, on connaît les personnes trans, notamment dans les médias, que ce soit dans la presse, la télévision, par le récit de leur histoire. Ce sont des récits d'opérations, ce sont des récits d'hormonothérapie, ce sont des récits, beaucoup d'images d'hôpital, beaucoup de suivi psychiatrique. Enfin, c'est un parcours qui est très médicalisé. Et cette médicalisation, en tout cas ce discours finalement, cette narration sur l'univers et finalement la transition médicale, à la fois que c'est moi, elle s'accentue, elle focalise sur le sexe, sur le changement de sexe, sur l'opération de changement de sexe. Qu'on en oublie qu'on a affaire à une personne et que cette personne elle est aussi dans une transition sociale. Et donc là, on est dans un changement de genre. Et je citais tout à l'heure l'exemple de Maud Yustoma qui dit, moi, mon opération, elle a duré genre 3-4 heures, mais mon changement, lui, il a duré 20 ans. Parce que c'est 20 ans pour s'inscrire dans la société, c'est 20 ans peut-être pour se faire accepter, ça peut être des décennies pour s'accepter soi-même et aussi se faire accepter. Donc c'est aussi un parcours de vie, c'est une transition sociale, c'est un changement de genre.
Aujourd'hui, où en est-on sur les droits des trans ? Quelles sont les priorités ?
Si on fait la synthèse de l'associatif trans, à l'heure actuelle, la demande principale, c'est le changement d'état civil, démédicalisé pour tout le monde, ça, il y a quasiment unanimité, et déjudiciarisé selon les associations. Parce que le changement d'état civil, c'est l'accès au logement, c'est l'accès à l'emploi, c'est l'accès à la santé. C'est vraiment, c'est le changement à l'état civil, changement d'état civil qui va conditionner l'accès à des droits finalement et à des conditions de vie qui soient correctes, parce que quand les gens n'ont pas des papiers d'identité conformes au genre vécu, expérimenté, imaginez la vie, ne serait-ce qu'aller à la poste, chercher un recommandé à la poste par exemple, mais c'est aussi tous les motifs de discrimination qu'on peut retrouver dans l'administration, et il y en a. Moi je suis le co-auteur d'un rapport transphobie en 2014, hein, et les pourcentages de discrimination étaient très élevés, et on pouvait se rendre compte que plus de 80% des gens discriminés n'osaient même pas porter plainte. Hein. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'au quotidien, c'est une maltraitance sociale, administrative, qui est permanente. Donc c'est vraiment la clé centrale.
Elle a moyen d'évoluer d'ailleurs, parce qu'on a vu que Christiane Taubira avait essayé d'apporter quelques réformes, mais vous pensez que ça peut mener quelque part aujourd'hui ? Vous croyez en un changement dans les années qui arrivent ?
Alors, toute cette législature-ci, je crois que c'est cuit. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de proposition sérieuse, et en tout cas, s'il y a proposition, elle ne sera pas présentée. Alors, j'ai mis aussi, je pose le qualificatif de une proposition sérieuse, elle passe aussi par un dialogue avec l'associatif, qui aujourd'hui est quand même aussi expert de ces conditions. L'associatif transidentitaire, aujourd'hui, a 20 ans d'expérience, il y a des associations qui sont vraiment très, très armées, tant sur le plan, je veux dire, médical, juridique. Donc il y a vraiment une expérience de terrain qui est extrêmement forte, hein, et des demandes qui sont justifiées. Donc les politiques, tant que les politiques essaieront de faire des propositions sans concerter l'associatif et le terrain trans, finalement, les premiers concernés, les propositions, elles seront toujours bancales. Et elles seront toujours combattues par une partie de cette associative trans, d'ailleurs. Donc, la proposition de Taubira, au départ, est une intention qui est évidemment positive. Hein, quand les politiques s'intéressent à nous et qui se disent, bon, on va avoir le courage, on va aborder cette question, il faut s'occuper des personnes trans, il faut les dévulnérabiliser. Ça, on est d'accord, ça marche. Par contre, pondre des textes sans concertation avec les premiers concernés, ça passera pas, et ça sera forcément un texte qui sera incomplet et probablement rejeté.
Merci, Karine Esminera.
Merci.
La rédaction des 3-8, 10 minutes avec...